Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Hey, bonjour tout le monde, vous êtes sur le Francophone. Aujourd'hui, on continue notre série sur les électrolytes, nos amis. Je suis avec Mathieu. Salut Mathieu.
Salut Yann, ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui.
Alors, es-tu prêt à nous parler du calcium, ce superbe électrolyte intracellulaire tellement essentiel à notre vie?
Toujours prête à parler d'électrolytes. Sujet fort passionnant, fort intéressant. Fait qu'on va essayer de rendre ça, encore une fois, intéressant.
Oui, puis ça réagit pas mal hein, sur les autres podcasts qu'on a fait sur les électrolytes. Je pense que les gens apprécient bien de faire un petit retour à la base dans ces notions-là.
Oui, effectivement. Fait que là, aujourd'hui, on va se lancer dans le calcium, comme tu as dit. On va mettre plus d'emphase sur l'hypocalcémie que l'hypercalcémie en soi, parce que c'est vraiment un traitement qui est une prise en charge qui est vraiment différente, là. L'hypocalcémie, c'est quelque chose qu'on va quand même voir assez fréquemment aux soins. Faut garder en tête, hein, Yann, que ben là, ça dépend des références, là, mais de 20 à 90 % des patients aux soins sont hypocalcémiques. Fait que finalement, c'est à peu près 1 sur 5 à peu près tout le monde. Là. Fait que, t'sais, on va avoir souvent de l'hypocalcémie.
Oui, puis effectivement, on voit beaucoup plus d'hypocalcémie que d'hypercalcémie, juste des fois par nos diurétiques ou par la dilution qu'on donne avec toutes les solutés, là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de se concentrer sur l'hypocalcémie. Bon, parlant d'hypocalcémie, comment on le mesure, ce calcium-là en général?
Ben, on a deux façons de le faire. Tu as le calcium total, qui est un chiffre qui va varier entre 2,20 à 2,40. Là. Ça dépend des valeurs de laboratoire. Puis ça, c'est vrai pour tous les épisodes sur les électrolytes. Là. Toujours se fier aux valeurs de référence qui est fournie par le laboratoire qui fait l'analyse parce que ben, des fois, vu qu'il y a des changements de réactifs ou des changements de la machine, ben, ça peut faire varier un peu les valeurs de référence. Ça, c'est un piège clinique. C'est surtout pour nos patients aux soins qui ont souvent une hypoalbuminémie, parce qu'on sait que le calcium est lié à 50% de l'albumine. Fait qu'il faut corriger le calcium total en fonction de l'albumine. On va mettre l'équation dans les notes de la balado, là, question que ce soit un peu plus visuel. Sinon, on a peut-être une façon de doser qui est un petit peu plus fiable, qui est le calcium ionisé. Fait que dans les fonds, on fait ça sur une seringue de gaz habituellement. Puis la majorité des articles de référence vont faire référence justement au calcium ionisé. Fait que tous les calciums qu'on va mentionner vont être en calcium ionisé là, au courant de l'épisode. Puis c'est celui qui est un meilleur reflet, je pense, qui est un petit peu plus adéquat, là. Fait que c'est la forme qui est biologiquement active. Fait que, si vous n'avez pas de calcium ionisé dans vos unités, ben je vous encourage peut-être à essayer de faire les démarches pour en avoir.
Oui, absolument. Le calcium ionisé est plus fiable. Puis pour tous nos patients dialysés, on utilise le calcium ionisé le matin et les dialyses pour bien ajuster notre calcémie.
Oui, puis il faut garder en tête, Yann, que le calcium, hein, c'est encore une fois un électrolyte intracellulaire, comme tu as dit, puis que c'est seulement grossièrement 1% qui est extracellulaire. Fait que la grosse réserve, hein, du calcium, on s'entend, est au niveau des os. Fait que le calcium ionisé va nous donner un ajustement un peu plus fin, si on veut, là. Un peu plus reflet.
Absolument. Tantôt, tu parlais de faire toujours réfléchir en fonction de l'albumine. Comme tu as dit, on va mettre la formule dans les notes de balado, mais moi, des fois, j'utilise une petite formule rapide, là, si ça peut aider les gens à avoir une idée, voir si tu es dans les normes avec ton calcium. Ce que je fais, c'est que je me dis que l'albumine, la normale, est aux alentours de 40. Donc, pour chaque baisse de 10 d'albumine, je vais ajouter 0,2 au calcium. Donc, si par exemple, j'ai un albumine à 30 puis que j'ai un calcium à 2,1, ben, je considère qu'il est à peu près à 2,30. C'est pas la précision la plus parfaite, mais ça me donne une bonne idée. Surtout lorsque mon calcium est par exemple à 1,8, 1,7, là, puis que j'ai un 20 d'albumine, je sais que je suis en haut 2 de calcémie. Alors, en général, ça va. Fait que c'est un petit truc rapide en attendant d'avoir la correction faite par le laboratoire. Maintenant qu'on sait comment le mesurer, c'est quoi le lien qu'on fait, parce qu'on a parlé déjà du phosphore, mais c'est quoi le lien qu'on fait entre le calcium et le phosphore, Mathieu?
Ouais, ben tu sais, on se souvient, hein, toute la régulation phosphocalcique, hein, les deux vont de pair parce qu'on se souvient, hein, que mettre du phosphore avec du calcium ensemble, ça chélate, Mais dans les fonds, on appelle ça un os, hein. Les os sont littéralement de la chélation phosphocalcique. Fait qu'il faut toujours vérifier son phosphore avant de répéter une calcémie, parce que tu peux avoir une hypocalcémie qui est secondaire à une hyperphosphatémie. Puis, juste pour vous donner une idée, là, si jamais vous êtes à risque de chélation phosphocalcique, ça c'est une règle quand même assez générale mais répandue. On va prendre le phosphore sérique, on va faire fois le calcium total, puis si le produit de tout ça est plus grand que 4, là, il y a un risque de chélation. Fait que là, ça veut dire que si on est au-dessus de 4, là, en termes de risque de chélation, ben là, la répression du calcium va vraiment avoir des bons arguments pour le faire. Mais c'est toujours une question de concentration. Fait que là, ça, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous devez donner un calcium chez quelqu'un qui a un phosphore quand même assez élevé ou qui a un risque potentiel de chélation, ou que le produit n'est pas au-dessus de 4, mais il y a une hyperphosphatémie quand même assez importante, mais le patient a quand même besoin de calcium parce que, je sais pas, là, il y a une dysfonction cardiaque ou il y a des signes d'hypocalcémie, ben à ce moment-là, on va toujours favoriser une vitesse d'administration plus lente parce que comme ça, les taux sériques vont monter plus lentement. Fait que notre produit phosphocalcique va être plus faible parce que les taux sériques vont monter plus lentement. Fait qu'on va faire un bref retour, là. Vraiment, pour les gens, là, ça va être dur, là, pas de schéma, mais il faut se garder en tête que la régulation du calcium et du phosphore, c'est surtout influencé par les concentrations sériques qui va être gérée par l'action de la PTH puis la vitamine D ainsi que la calcitonine. Fait que tout ça est un beau balai que tout le monde va s'entraider. Fait que si jamais on se retrouve avec une augmentation du phosphore ou une diminution du calcium, ça va stimuler une relâche de PTH. Fait que la PTH, elle va aller voir les os. Elle va dire, bon, on fait un peu de résorption, il faut monter le calcium. Elle va aller voir au niveau intestinal en disant, hey, ça va nous prendre du calcium, absorbez-moi ça. Elle va aller voir au niveau du rein, elle va dire, bon, je pense que le phosphore, faut le flusher une petite affaire. Puis après ça, elle va aller voir aussi, en passant aussi au niveau des reins, elle va aller dire, là, ça va nous prendre un petit peu plus de vitamine D, qui elle aussi va aider à l'absorption du calcium. Fait que tout ça est un beau balai, là, une belle chorégraphie, là, PTH-calcitonine. Fait qu'il faut juste, c'est vraiment un bref retour là, pour se rappeler que c'est vraiment important.
Et puis cette chorégraphie-là, on va vous mettre un petit tableau dans les notes de la balado pour se remémorer ça. C'est quand même assez important à le garder en tête, mais ce qui devient plus important lorsqu'on a une hypocalcémie, c'est de savoir que la reconnaître. Donc souvent, on peut la voir même avant d'avoir vu les labos. Fait qu'en général, qu'est-ce que ça nous donne comme symptomatologie une hypocalcémie, Mathieu?
Ouais, ben, il y a trois gros systèmes qui vont être affectés par une hypocalcémie. Okay, donc c'est vraiment en termes d'excitabilité de cellules, que ce soit nerveuse, musculaire ou cardiaque. C'est au niveau du système neuro, fait que c'est un peu comme un continuum. Il va y avoir une irritabilité qui va s'installer, ensuite va s'en venir une confusion, hallucination qui peut aller jusqu'aux convulsions. Au niveau du système cardiaque, c'est des cellules musculaires, ça a besoin de calcium pour se contracter. Donc, on peut avoir des problèmes au niveau de l'intervalle QT, une diminution de la contractilité cardiaque. On l'oublie, mais le calcium est un inotrope, littéralement. Fait qu'on peut même avoir des insuffisances cardiaques ou des syncopes là, qui pourraient se produire. Et au niveau musculaire, on va avoir une certaine irritabilité musculaire, même jusqu'à des tétanies, même des spasmes laryngés. Puis là, tu sais, quand on pense au tétanie, on pense souvent, tu sais, au joystick, là, tu sais, le spasme du muscle facial. C'est super ben, c'est pas le fun pour le patient, mais c'est très intéressant d'en voir un là, quand tu as une hypocalcémie. Mais il faut garder en tête, ça a une certaine sensibilité, là, un peu plus diminuée, hein, parce que 25% des gens sains ont un joystick de base. Fait que des fois, si tu en as un puis tu as une clinique qui va avec, là, c'est sûr que c'est ça, mais si tu as un joystick, puis t'as rien d'autre qui colle avec une hypocalcémie, ben c'est peut-être juste un chopstick chez quelqu'un sain. Moi, ça m'a surpris là, quand j'avais lu ça. Je pensais pas que tu pouvais faire des chopsticks chez quasiment un patient sur quatre là, avec un calcium normal. Tandis que le trousseau, ça, par exemple, c'est vraiment plus spécifique, là. Écoute, c'est moins d'1% des gens normaux qui ont un calcium normal qui vont faire un trousseau. Donc, si vraiment vous avez un trousseau, là, c'est quasi sûr et certain que vous avez une hypocalcémie,
C'est nos
là.
infirmières qui vont le voir en faisant
Ouais.
la prise au brassard la plupart du temps.
Effectivement. Puis, tu sais, pour m'avoir déjà vu, c'est assez impressionnant.
Oui, tout à fait. Bon, justement, ces hypocalcémies-là, ils sont causés par quoi en général, surtout pour nos patients de soins intensifs? Qu'est-ce qui nous apporte les hypocalcémies chez nos patients?
Ben, tu sais, le calcium, ça va être, c'est comme encore une fois, à peu près toutes les électrolytes, hein, fait que c'est soit un problème d'absorption, fait que soit des maladies inflammatoires à l'intestin, des syndromes d'intestin court, des résections qu'on a eues post-op et autres. Là, c'est sûr que là, ça va jouer sur intracellulaire, extracellulaire. Donc, qu'est-ce qui gère ça? Ben, la PTH, on en a parlé brièvement tantôt, fait que si une PTH marche moins bien, que ce soit par une parathyroïdie, ou même une hypomagnésémie. Hein. On se souvient que le magnésium est un cofacteur de la PTH. Donc, une hypomagnésémie va amener une PTH réfractaire, donc qui ne fonctionnera pas très bien. Ou ça pourrait être aussi sur une diminution de la vitamine D, que ce soit sur nos insuffisants rénaux chroniques ou des patients qui ont un déficit en vitamine D. Puis il y a d'autres causes aussi qui sont autres, comme les rhabdomyolyses, hein, parce que ça va relarguer tous les produits intracellulaires, donc vont avoir une certaine chélation également avec le phosphore, fait que ça va créer une hypocalcémie. Les désordres acido-basiques, l'alcalose va jouer sur le calcium, donc ça va jouer sur les liaisons, ce qui va nous créer une hypocalcémie. On a les pancréatites, qu'on a heureusement pas souvent, qui vont faire une saponification, donc vraiment, ils vont avoir une consommation là, au niveau local du calcium. Et le piège clinique, ben, quand on a un protocole, habituellement, ça va quand même bien, mais les transfusions massives, on nous.
Absolument.
Avec tout le citrate qui est contenu dans les culots, ça chélate le calcium. Puis il faut quand même se rappeler, le calcium, c'est le facteur 4 de la coagulation, de la cascade de coagulation. Fait que si tu te trouves avec quelqu'un qui s'exsanguine, tu lui fais un protocole de transfusion massive, puis en plus, à cause de ça, tu as une hypocalcémie, ben tu te tires un peu dans le pied parce qu'il y a un des facteurs que tu perds.
Ton hypercoagulabilité. C'est pour ça, je pense qu'en général, on demande de faire des dosages de calcium aux 30 à 60 minutes dans les protocoles de transfusion massive. Tout dépendant de votre protocole, mais c'est important de bien le doser ou, dans le doute, de donner du calcium.
Exactement. Puis tu sais, on parle du protocole de transfusion massive. Je pense que le monde y pense quand même assez régulièrement, surtout qu'on a beaucoup de protocoles pour que ça soit facile avec la banque de sang puis que ça roule bien. Mais tu sais, des fois, tu sais, Yann, tu te souviens, tu as des patients, des fois, tu vas donner 1, 2, 3 kilos, mais quand même assez rapproché. Ce sera pas un protocole de transfusion massive, mais tu vas y en donner quand même assez rapproché parce que tu as besoin d'y en
Absolument.
donner. Mais ben, lui aussi, il est quand même à risque d'hypocalcémie. Fait que tu sais, faut le surveiller. Puis c'est sûr que, tu sais, si tu fais de l'anticoagulation avec du citrate, comme par exemple du plasmaférèse ou, les thérapies de remplacement rénal, c'est très rare qu'on va anticoaguler avec du citrate, là, mais les plasmaférèses, on va le faire souvent, fait que ça fait vraiment beaucoup d'hypocalcémie. Fait que si vous n'avez pas de protocole et vous faites de la plasmaférèse, je vous conseille fortement d'avoir un protocole en place avec des dosages pré-post, là, circuit. Et sinon, c'est sûr que l'hyperphosphatémie aussi là, va causer une hypocalcémie.
Oui, puis j'ajouterais aussi, Mathieu, quand on parlait de donner juste 2-3 kilos rapprochés, le même principe, là, je me souviens d'avoir vu pas mal d'hypocalcémie sur des patients qu'on va donner des kilos à tous les jours, qui sont pas en transfusion massive, puis qui sont plutôt en transfusion urgente sur 2-3 jours, par exemple des hémorragies digestives, qu'on a beau faire des OGD, ça saigne toujours, fait qu'ils se ramassent toujours avec 2-3 kilos à chaque jour pendant 3-4 jours en ligne. Bien, on n'est pas capable de contrôler le saignement ou des patients post-op qui saignent à bas bruit tout le temps, il faut toujours transfuser un peu. Eux aussi finissent par faire de l'hypocalcémie. Donc, en transfusion, le citrate, je pense que c'est un élément clé à retenir de l'hypocalcémie.
Tout à fait.
Pour conclure sur les causes de l'hypocalcémie, je pense qu'il y a pas mal de médicaments qui viennent un petit peu empirer le tout, là. Il n'y a pas juste le citrate, comme on vient de dire, sur les transfusions massives, là.
Non, effectivement. Tu as plein de médicaments qui vont jouer sur la résorption osseuse, là, qui vont la diminuer. Il y a plusieurs chimiothérapies, comme les platines ou le 5-FU ou le cyclophosphamide, qui vont causer ça. Naturellement, les bisphosphonates, hein, ça va de soi. Puis ça, je fais vraiment un aparté parce que des fois, en hypercalcémie, on va utiliser des bisphosphonates, puis des fois, on va hémodialyser. Moi, ça m'est déjà arrivé, en hypercalcémie, on avait donné un bisphosphonate intraveineux, puis pas longtemps après, on avait dialysé, mais là, le bisphosphonate se met à kicker in après la dialyse. Fait que c'est quand même poche parce que là, on avait vraiment des trousseaux. Fait que, tu sais, répléter du calcium chez quelqu'un qui, sa raison d'admission, c'est hypercalcémie. Faut quand même garder ça en tête, là. C'est pas juste les bisphosphonates par os, là, une fois par semaine, là. Sinon, il y a certains antibiotiques comme l'amphotericine B aussi là, qui pourraient faire ça. L'éthanol aussi, je veux dire, l'alcool, on a toujours un peu de plaisir à en prendre, mais ça reste quand même assez toxique pour l'organisme. Sinon, ben, les chélations, on a parlé du citrate, tout ce qui est ingestion de phosphore, hein, ça va de soi. Le DTA aussi, là, qui est dans les culots avec le citrate également. Il y a des agents un petit peu plus flyés, là, comme le foscarnet, là, qui est un antimicrobien qu'on voit très rarement, ou tout ce qui est inducteur du métabolisme, comme la phénothéine ou le phénobarbital. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va induire le métabolisme de la vitamine D, puis ça peut amener une déficience en vitamine D. Fait que ça va nous amener une hypocalcémie là, qui va être pareille. Tout ce qui joue également sur la PTH, là, que ce soit le propylthiouracile ou les estrogènes. Puis le magnésium, encore une fois, j'arrive pas d'en parler, mais les autres causes du magnésium qui causent de l'hypomagnésémie, peut-être qu'on va référer les auditeurs à l'épisode du magnésium là, pour plus de détails. Et aussi, tu l'avais mentionné d'entrée de jeu, tout ce qui est excrète au niveau urinaire, le calcium, notamment nos diurétiques de l'anse qu'on utilise quand même assez régulièrement aux soins intensifs là, dans notre gestion de volémie. Fait que tu sais, il faut quand même le garder en tête, là.
Dans les faits, un coup qu'on a trouvé, on a bien identifié nos symptômes, puis on sait qu'on a un patient hypocalcémique, maintenant il faut le répléter. Alors, c'est quoi l'approche que tu prends pour répléter tes hypocalcémies?
Ben, la première chose, comme j'ai dit un peu plus tôt, hein, faut toujours s'assurer de vérifier le phosphore, parce que si t'as vraiment une grosse hyperphosphatémie, ben, règle générale, ton hypocalcémie, elle va être secondaire. Puis après ça, tu vas vérifier ton magnésium, parce qu'une légère hypocalcémie, c'est un signe d'hypomagnésémie. Ça veut dire que si tu corriges ton magnésium, ton calcium va se corriger tout seul. Fait que toujours vérifier ces deux-là en premier. Puis garder en tête, c'est un nion intracellulaire, fait que les échanges intra-extracellulaires sont très lents. Ça peut prendre jusqu'à 6 à 12 heures après la fin de la dose pour être sûr qu'on a tous nos échanges et qu'on soit stabilisé. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut au moins attendre 8 heures après la fin d'une dose bolus pour faire un contrôle. Sinon, ben, ça va être faussé, on ne l'aura pas à l'équilibre nécessairement. Puis là, viendra le choix entre le PEROS ou le IV. C'est sûr que, tu sais, aux soins intensifs, le PEROS, l'utilise plus ou moins pour répléter le calcium. On va l'utiliser peut-être plus comme chélateur de phosphore, qui est le calcium en passant, est un excellent chélateur de phosphore. Il y a généralement trois sels qu'on peut prendre. Le carbonate de calcium, qui contient 40% de calcium élémentaire. On a le citrate, qui en contient 20%. Puis le gluconolactate, qui contient 13%, là.
En général, tes patients qui rentrent aux soins intensifs et qui sont sur calcium déjà à la maison, est-ce que tu les laisses sur leur médicament de calcium ou tu les cesses à cause de, je sais pas, à cause des insuffisants rénaux ou à cause de toutes les pathologies qu'ils peuvent avoir? Que tu gardes ou tu les arrêtes?
Ça dépend du cas que tu as devant toi. T'sais, si le patient a de la misère à tolérer le gavage, il est hypoperfusé au niveau splanchnique, puis je vais favoriser, mettons, les quelques médicaments qui sont plus essentiels que le calcium. Fait que je vais avoir tendance à le suspendre, pour être franc. Ceux chez qui je vais m'assurer de le poursuivre, c'est mes insuffisants rénaux qui vont utiliser le calcium souvent comme chélateur de phosphore. Fait que c'est sûr que je vais. Ben, ça chélate l'apport de phosphore, donc il faut qu'il y ait un apport pour que ça fonctionne. Fait que s'il n'y a pas d'apport, ben, on peut bien les donner, là, ça donnera pas, ça sera pas un problème. Fait que plus le patient est malade, plus c'est drôle, j'ai tendance à le suspendre, puis à le répléter intraveineux au besoin. Mais c'est très rare que j'ai besoin de le répléter là, pour des asymptomatiques, là. Fait que, en général, moi j'ai tendance à le suspendre. Je sais pas toi si t'as une pratique.
Oui, c'est à peu près la même chose que je fais. Puis je vais en fonction de la pathologie, puis en fonction de mes dosages à tous les jours, là, naturellement, puis de la fonction rénale. Maintenant, au niveau de la répulsion intraveineuse, qui nous concerne plus aux soins intensifs, là, comme tu viens de le dire, bon, on a le choix entre le chlorure ou le gluconate de calcium. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de la différence. Puis après ça, je vais avoir une question pour toi sur une pratique que je fais depuis longtemps, puis je voulais avoir l'opinion d'un pharmacien là-dessus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi à ça. Hein. On fait les choses des fois par réflexe, là, puis par répétition et habitude. Fait que je voudrais avoir ton son de cloche là-dessus. Mais globalement, comme je le disais, chlorure et gluconate de calcium, peux-tu nous parler un petit peu de ces deux alternatives-là?
Ouais, ben en tout cas au Canada, je sais pas si dans le reste de la francophonie, mais généralement il y a pas mal juste deux calciums, deux sels de calcium. Le chlorure de calcium, comme tu as mentionné, qui contient 27% de calcium élémentaire. Donc c'est quand même appréciable. Tandis que le gluconate de calcium, lui, va contenir seulement 9% de calcium élémentaire. Donc le chlorure a trois fois plus de calcium élémentaire rapidement disponible. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le gluconate, le sel en soi a une dissociation plus lente. Puis il y a plusieurs références qui mentionnent qu'on a besoin du foie pour le métaboliser, le gluconate, mais pour avoir une certaine dissociation du calcium aussi. Fait que tu sais, il y a comme deux processus. Tu as une dissociation du calcium, du sel gluconate, mais tu as besoin d'un peu de métabolisme. Fait que si tu as une insuffisance hépatique, ça se peut que tu n'aies pas le 9% de calcium élémentaire. Mais sinon, ben. Le fait qu'il se dissocie plus lentement ou que tu le métabolises tranquillement, ça fait une perfusion plus lente. Fait que si tu le donnes plus lentement, ça te fait une meilleure rétention intracellulaire.
OK. Bon, tu vois, ce que je voulais te demander, c'est un petit peu dans cette optique-là. Je sais pas, moi, quand j'étais résident, la plupart de mes patrons utilisaient uniquement du chlorure du calcium. C'est comme si le gluconate avait un peu une mauvaise presse parce que faut en donner plus, c'est plus compliqué. Il y a les problèmes avec le métabolisme hépatique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui utilisent le chlorure de calcium quasiment 100% du temps. Et les fois qu'en tout cas, moi, je donne du gluconate, c'est parce qu'il n'y a plus de chlorure de disponible là, dans les faits, là. Alors, est-ce que tu vois ça chez tes médecins, toi, avec qui tu travailles? Puis, c'est quoi un petit peu ta vision par rapport à ça? Parce que je me dis, tant qu'à donner celui qui est plus sécuritaire pour le foie, puis qui est plus facile à donner parce qu'on donne une seule ampoule, en général, que ce soit rapide ou non, le percode ou sur un patient hyperkaliémique ou juste sur 1 heure ou 2 parce que le patient est hypocalcémique, quasi asymptomatique, il me semble que le chlorure est plus simple à donner.
C'est plus simple, mais c'est sûr que tu as besoin de la voie centrale, ce qui parce que il y a de l'extravasation qui peut se produire, puis c'est quand même assez vésicant, le chlorure de calcium, contrairement au gluconate. Le gluconate est comme plus doux, si on veut, là. Il fait pas d'extravasation nécessairement. Il est pas aussi vésicant que le chlorure. Fait que, tu sais, ça dépend des voies puis des accès que tu as. Ça dépend des disponibilités puis de la situation. C'est sûr que, tu sais, on parlait d'hyperkaliémie. Puis tu as besoin de stabiliser la membrane. Tu as besoin de calcium stat, là. Fait que le calcium stat, c'est le chlorure de calcium. Ou t'as besoin de calcium, t'as besoin d'un inotrope, t'as besoin de vérifier que c'est pas une hypocalcémie là, au niveau de ton myocarde, ben t'as besoin c'est du chlorure, parce que t'en as besoin maintenant. Mais si tu veux repléter tes cellules, si tu veux repléter les fibres musculaires, puis tu veux y aller lentement, puis tu sais, y a pas de presse, y a pas rien, tu pourrais y aller avec du gluconate aussi. Parce que tu vas avoir une dissociation plus lente, fait que tu satureras pas nécessairement tes échanges intra-extracellulaires. Fait que tu vas avoir une meilleure répression intracellulaire de calcium avec du gluconate. Si tu as une insuffisance hépatique, tu n'auras pas le 9%. Si tu prends du glu Dans le fond, c'est que si tu prends du gluconate chez un insuffisant hépatique, ça sera c'est pas que c'est mal, c'est juste que tu n'auras pas le 9% de calcium élémentaire. Tu vois, il y a une portion que tu n'auras pas, mais ça va se dissocier plus lentement. Est-ce que c'est mal? Pas nécessairement. Ça dépend vraiment du patient que tu as devant toi. T'sais, plus le patient a besoin de calcium, plus tu prends du chlorure. Plus il est symptomatique, plus tu prends du chlorure. Mais si tu veux comme un traitement de fond, si tu veux, ben, tu prends du gluconate.
D'accord, intéressant. Ben écoute, je vais peut-être rechanger ma pratique à ce niveau-là.
Puis, tu sais, un autre point aussi, t'avais dit, ah ouais, moi, le gluconate, je le prends juste si j'ai plus de chlorure. Il faut garder en tête cette conversion-là de trois fois plus de calcium élémentaire que le chlorure. Fait que si t'as pas de chlorure, t'as une hyperkaliémie, il faut que tu stabilises la membrane, ben il faut que tu prennes 3 grammes de gluconate de calcium pour avoir au moins 27% élémentaire. Fait que tu sais, des fois, c'est comme un piège clinique, des fois qu'on oublie, là. Quand t'as pas de chlorure puis t'as besoin du plus de calcium élémentaire le plus possible, ben. Faut que tu tripes un peu ta dose. Fait que, tu sais, tu prends 3 grammes de gluconate de calcium pour 1 gramme de chlorure. Fait que, tu sais, faut le garder en tête, là, surtout dans les situations
Absolument,
urgentes.
oui, parce que si tu vas un pour un, tu vas pas donner la même quantité de traitement. Alors, comment tu vas choisir ta dose en fonction de l'hypocalcémie?
Ben, ça va dépendre vraiment. Tu sais, moi, je le vois asymptomatique ou symptomatique. OK? Puis les vitesses d'administration, ça va varier. Tu as un patient qui est symptomatique, OK? Généralement, le calcium ionisé, c'est pas mal sûr qu'il va être en bas de 1, là, on s'entend. Puis le calcium, tu sais, dans le fond, ça dépend. Souvent, moi, je vais mixer. Je vais donner un chlorure de calcium. Je vais donner 1 gramme, puis je peux le donner assez rapidement, là, en 10 minutes. Puis je vais le répéter à peu près aux 60 minutes jusqu'à temps que j'ai un calcium ionisé qui commence à être dans les zones que je cherche. Puis là, tu sais, j'entends les gens dire, oui, Mathieu, tantôt, tu nous as dit d'attendre 10 heures pour avoir les stabilisations. Je suis d'accord. Sauf que là, tu as un patient qui est symptomatique, tu as un trousseau, tu as des problèmes myocardiques qui convulsent. Tu sais, je pense que tu peux te permettre de faire des calciums ionisés pas mal plus rapidement. Puis tu sais, souvent, ce qu'on a fait là, dans des cas, mettons, de syndrome de l'os affamé, là, le Angry Bone Syndrome, ce qui sont devenus symptomatiques, on poussait du chlorure de calcium, puis on partait une perfusion de gluconate de calcium. OK, à 0,25 à 0,5 grammes à l'heure. On mettait 10 grammes de gluconate de calcium dans 1 litre de NS. Puis après ça, on partait ça à 0,25, 0,5 grammes à l'heure comme traitement de fond. Puis après ça, on rajoutait du chlorure de calcium par-dessus tant que le patient était symptomatique. Parce que dans le fond, faut que tu penses en termes de concentration. Faut que ça monte vite, de calcium élémentaire disponible pour essayer de minimiser les symptômes, mais ça va quand même te prendre une perfusion continue par la suite. Fait que tu sais, quand le patient
Assuré.
est symptomatique, c'est un peu de même que je le gère. Mais tu sais, genre, c'est quand même assez rare, heureusement. Là.
Absolument. Puis, on va laisser un petit tableau qui explique un peu ça en fonction des symptomatiques. Là, je pense que c'est un tableau intéressant que tu as fait. Donc, ça va pouvoir aider les auditeurs si vous vous questionnez à savoir quoi donner. Un coup qu'on a donné nos traitements, qu'on a donné notre traitement, est-ce qu'il y a des traitements adjuvants qu'on peut ajouter à l'hypocalcémie?
Il y a des traitements adjuvants qu'on peut donner. C'est sûr que, tu sais, on va moduler ces traitements adjuvants selon le niveau de calcium ionisé aussi, d'un certain point de vue. Parce que, je te disais tantôt, symptomatique, un peu la façon qu'on le gérait. Mais quand tu es asymptomatique, ben quand tu as un calcium ionisé plus que 1, ben là, la question de se poser, tu sais, as-tu besoin de le corriger ou pas? Est-ce que la correction du magnésium ou du phosphore va être suffisant? Fait que là, ça dépend de ton patient. Fait que, tu peux donner 1 gramme à 0,5 à 1 gramme à l'heure. T'sais, dans le fond, le but, c'est de le donner le plus lentement pour avoir une meilleure répression intracellulaire. Puis là, plus tu vas baisser, ben là, plus tu vas augmenter le nombre de grammes que tu vas donner. T'sais, entre 0,8 à 1, ben là, tu peux viser peut-être plus 2 grammes. Puis entre 0,6 puis 0,8, ben tu vas donner 2-3 grammes, ainsi de suite. Puis le but est toujours étant de donner le plus lentement possible, quitte à donner une perfusion là, à ce moment-là. Mais c'est sûr que plus ton calcium ionisé va baisser, plus tu vas avoir besoin d'un traitement adjuvant. Fait que la vitamine D, qui est souvent une des causes sous-jacentes, fait qu'on va essayer de viser des niveaux de vitamine D là, 25 au-dessus de 30 nanogrammes par ml. Fait qu'on va donner de la vitamine D, puis des fois, il va falloir donner de la vitamine D active, comme du calcitriol qui est du 1,25. Comme ça, tu es sûr que t'as pas de problème de foie, pas de problème, t'as pas de problème de rein, t'as pas de problème là, bon, au niveau de la peau, ça c'est bien rare qu'il y ait un problème. Fait que, t'sais, comme ça, t'as de la vitamine D qui est active. Puis l'autre point aussi, c'est le magnésium. T'sais, on va pousser la magnésémie parce que comme ça, t'es sûr que t'auras pas d'hypocalcémie réfractaire au magnésium. Fait que t'sais, c'est comme 2 traitements adjuvants que tu peux donner en plus. Fait que t'sais, si tu te retrouves devant un syndrome de l'os affamé, tu vas donner plein de calcium, mais comme quoi adjuvant, ben, donne la vitamine D. Souvent, ces patients-là, on avait déjà pré-op, mais du magnésium, tu sais, pousse-les, là.
Wow, Mathieu, super résumé que tu viens de nous faire sur le calcium. C'était vraiment intéressant. J'aimerais savoir, avant qu'on quitte nos auditeurs, si tu avais quelques perles pratiques pour nous à retenir.
Oui, mais dans le fond, toujours vérifier son phosphore et son magnésium avant de répléter un calcium. Gardez en tête que c'est des répétitions qui sont habituellement lentes, qui vont être et longues, souvent nécessaires. Ça peut même prendre 3 à 5 jours là, pour bien répléter un calcium. Puis tout est une question de vitesse d'administration. Fait que quand ça va bien, puis le patient est asymptomatique, toujours viser une répétition plus lente de 0,25 à 0,5 grammes à l'heure. Ça va vous donner des meilleurs résultats. Puis attendre au moins 8 heures après la fin de la dose pour être sûr d'avoir l'équilibre total. Bon, quand le patient a une hypocalcémie qui est légère asymptomatique, bon, ben, on peut y aller par os, il n'y a pas de problème. Augmentez votre fréquence avant d'augmenter votre dose, là, question d'absorption. Puis quand on a besoin de la voie IV, encore une fois, favoriser une administration le plus lent possible. Et bon, choisir le sel selon la clinique que vous avez devant vous, là. Je pense qu'avec ça, on devrait être pas mal en business.
Exact. Alors, ben, merci beaucoup, Mathieu. Je voudrais rappeler à tout le monde que Tous nos podcasts sont sur les plateformes habituelles, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, on est sur YouTube aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je te remercie beaucoup, Mathieu. Je vous dis bonjour. À la prochaine.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.